Donc le titre du cours d'aujourd'hui c'est Itpartsut Hara Siman Legeula. Lorsque le mal est en train de, Dieu préserve, de jaillir, c'est un signe pour la Geoula. Donc on va expliquer ça autour de la paracha de cette semaine. Paracha Tazria. Bedinea Negaim Mofia Din Tamua. Donc cette semaine, une grande partie de la paracha est dédiée aux lois des Negaim, des plaies. Il y a des lois spéciales, qu'est-ce qui détermine qu'une plaie est impure, ou est-ce qu'elle est pure, etc. Il y a beaucoup de lois dans la paracha de cette semaine. Hazak. Moi je prends après. Monsieur. À la mémoire, pour le mérite. D'accord. Pour le mérite de Rosh Chodesh. Oui.
Shlomo Ben Mara.
Shlomo Ben Mara. Pour le mérite. D'accord. Alors. Allez-vous. Donc, Bedinea Negaï Mofia Din Tamua. Dans les lois des plaies, qu'on va étudier dans la Torah, Mofia Din Tamua. Oui.
C'est un cours à la mémoire de Esther Batrachel.
Esther Batrachel, d'accord. Ouais. C'est. D'accord. C'est une dame qui est niftar cette semaine dans une explosion suite à fuite de gaz.
Ouais. Son enfant.
Du coma,
son enfant, elle est mariée, elle a des enfants. Quoi.
Ouais, pour la réfoua chez les mains aussi de sa fille, c'est ça? Sa fille qui est
dans
le coma. Donc, Bedinea Negaï Mofia Din Tamua, dans les lois des plaies, il y a un din, d'accord? Il y a une loi qui est très intéressante, pas seulement intéressante, elle est même étonnante. On nous dit que Imitgale Bever Mesuyam Begouf Negasarat, si dans un certain membre du corps, on retrouve donc la plaie de la lèpre, donc ça c'est différentes catégories de plaies qui sont citées dans la Torah. Il y a deux catégories qui sont appelées Se'et et Saparat. On va déterminer comment la plaie s'est répandue. Ou bien il y a aussi le fameux Se'ar Lavan, qui est un poil blanc, d'accord, un poil blanc autour d'une plaie. Enfin, c'est des lois qui sont citées dans la paracha cette semaine autour de la plaie. Nitma à Adam, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Torah? Elle nous dit dans ce cas-là, l'homme devient impur. D'accord? Si une personne a une plaie sur son corps, par exemple sur son doigt ou sur sa main, etc. C'est tout le corps qui devient impur. L'homme devient impur. Tu as le mikvé, etc. Enfin, il y a toutes les lois de l'impureté. Ah, cependant, im kista tsarat et kol besaro, si la lèpre est tellement forte qu'elle recouvre tout le corps, c'est pas seulement la main ou le pied, elle recouvre tout le corps, quelle est l'alakha? L'alakha est dit que alakhaï vetier et anaga. L'alakha est que le Kohen, parce que c'est le Kohen qui doit donner le verdict, lorsque le Kohen se rend compte que le corps entier est atteint de lèpre, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Vétière est un aga. Le Kohen dit que dans ce cas-là, il n'y a pas de lèpre, dans ce cas-là, c'est pur. A Torah madgish azot shuv, et la Torah ne le dit pas seulement une fois, la Torah le répète une seconde fois, vous avez les références en bas si vous voulez, kulo afar lavan tahor hu, que puisque la personne est devenue entièrement blanche, c'est donc synonyme de lèpre, tahor hu, il est pur. Ça, le rabbi pose la question, il dit a priori, Yeshkan Michora Dava Biltimouvan. A priori, c'est très étonnant, c'est pas compréhensible. Ech itachen, shekaasher mofia tsarat bechelek meorosh ala adam utame. Comment c'est possible que lorsque la lèpre va intervenir dans une partie du corps de l'homme, par exemple que sur la main, dans ce cas-là, c'est le corps entier qui devient impur. Veilu kaasher atsarat it pashtak kolkar. Alors que lorsque la lèpre s'est tellement répandue, Hachekistet kol besaro à tel point qu'elle a recouvert toute la chair, ou Taor, il est pur. Qui peut le plus, peut le moins, on est d'accord? Ou qui peut le moins, peut le plus, on devrait dire dans ce cas-là. Si déjà tu me dis que la lèpre qui a couvert, d'accord, seulement la main, elle a rendu impur tout le corps, ben c'est évident que si cette même lèpre a couvert tout le corps, c'est sûr que tout le corps va être impur. Donc là, on dirait qui peut le moins, peut le plus. C'est logique, c'est normal. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? La Torah nous répète deux fois dans la paracha de cette semaine, elle nous répète deux fois, que si la lèpre a atteint seulement une partie du corps, dans ce cas-là, c'est pur. Mais si la lèpre a atteint tout le corps, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans ce cas-là, on nous dit tout le corps est pur. Alors, bien qu'on sait très bien, on sait très bien ce qu'on a expliqué les semaines précédentes, que les lois de la pureté et de l'impureté sont des lois qui ne sont pas forcément compréhensibles. Mais quand même, ça c'est quand même un détail qui nous interpelle. Je dis pas qu'on comprend la pureté et l'impureté, mais ça c'est un détail qui nous interpelle, parce que comment c'est possible qu'une petite plaie rend impur tout le corps, et une plaie sur tout le corps, tu me dis qu'elle rend impur, elle rend pas impur du tout, elle rend pur. C'est pas possible, il y a un problème. Alors, justement, plus que ça. D'accord? Oui, bien sûr. C'est plus que ça. Ça veut dire que, en général, le Cohen ne donnait pas son verdict tout de suite. Comment ça se passait? Le Cohen y passait une première fois, et il analysait, regardait le corps de la personne. Par exemple, il va voir que bah, y a la plaie qui a pris une partie du corps. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il disait le Cohen? Il dit, ok, on revient dans 7 jours. On revient dans 7 jours, on verra où ça en tient. Il revient dans 7 jours. D'accord? Il voit que la plaie s'est encore répandue. Il dit, on attend encore, il faut attendre que ça s'arrête. Et là, une fois que ça a arrêté de se propager, là, qu'est-ce qu'il dit le Cohen? Le Cohen dit, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si ça s'est arrêté de se propager, que ça ne s'est pas répandu dans tout le corps, il est pur. Mais si ça s'est répandu dans tout le corps, d'accord, pardon, il est impur. Mais si ça s'est répandu dans tout le corps, il est pur. C'est pas logique. Alors, il y a deux raisons. D'accord. Tout le corps, il devient pur.
L'isolement, il commençait dès le début.
Oui. Dès qu'on voyait qu'il était...
Ouais. Et ça pouvait pas diminuer pendant ce...
Ça pouvait diminuer, si.
Possible.
D'accord, ça c'était possible. Mais là, si ça a augmenté à tel point que ça a couvert tout le corps, la Torah nous dit que dans ce cas-là, il est pur.
C'est contradictoire,
c'est pas logique. D'accord. Normalement, si tu me dis qu'une petite plaie rend impur tout le corps, c'est pas logique qu'une plaie qui couvre tout le corps ne va pas rendre impur elle aussi tout le corps. C'est pas logique. Donc la Gemara pose la question sur ça. Elle dit, c'est quoi la logique qui est derrière? Donc, ce paragraphe suivant, elle dit, « Nitnu al-kar » Vous avez le paragraphe « Nitnu » ?« Nitnu al-kar shnei limukim » Il y a deux raisons qui ont été données sur ça. Deux raisons pour essayer d'expliquer ce phénomène, cette halakha.
Première raison, venez au cours. Si je peux me permettre.
Venez. C'est pas seulement parce que ça dérange, c'est aussi parce que ça me fait plaisir de vous voir au cours. Alors... Nitnu al-kar shnei nimukim. Sur ça, hein, sur la question qu'on vient de poser, comment ça se fait qu'une petite plaie rend impur tout le corps, mais une plaie qui a couvert tout le corps ne rend pas impur du tout? Il y a deux raisons qui ont été données. Première raison, qu'on retrouve dans les Mefarshim, qui nous dit qu'effectivement, Zogzera Takatou, ça veut dire que c'est un décret, Aleph, c'est un décret de la Torah. Achen al-pi egayon, que effectivement, si on suit la logique, Adam shatzara tistet kol gufo, amur liot tamé. Un homme qui a été couvert entièrement par la lèpre, il aurait dû être normalement entièrement impur. Ah, Hakadosh Baruch Hu Gazar, Shebemat Savze, Utar. Mais c'est Dieu qui a décidé que dans ce cas-là, il devient pur. Donc on a deux groupes de commentateurs. Un premier groupe de commentateurs qui nous disent que de la même manière que les lois de la pureté et de l'impureté ne sont pas forcément compréhensibles, et sont même incompréhensibles, on ne peut pas forcément les comprendre. Par exemple, comment on explique le fait que l'impureté ne peut pas atteindre un non-juif? Hein, comme la dernière fois, il nous a parlé de M. Sommelweis. Hein, quelqu'un qui est docteur Sommelweis. Ouais. Mais ça répond pas à la question comment ça se fait que dans la Torah, l'impureté ne peut atteindre que les juifs, pas les non-juifs. Donc, tout le concept de la pureté et de l'impureté n'est pas forcément compréhensible. Donc, il y a un premier groupe de commentateurs qui disent, si déjà de toutes les façons, c'est pas compréhensible, alors tant qu'à faire, on va rajouter encore un détail sur les lois qui sont pas compréhensibles. On va dire que ça aussi, c'est pas compréhensible, comment la plaie qui a recouvert tout le corps ne rend pas impur tout le corps. Ça c'est un premier groupe de commentateurs. Mais on a un deuxième groupe de commentateurs qui est ramené dans la Gemara. Yeshi Gayon Gam Balachazo. Il y a un deuxième groupe de commentateurs qui dit qu'il y a une logique derrière cette halakha. Qui dit que Kaasher Atzarat Mufiar Akalchelek Meor. Lorsque la plaie va venir seulement sur une partie du corps, Barur Shezo Machala, dans ce cas-là, c'est clair que c'est une maladie. Ça veut dire que le corps est en bonne santé, mais qu'il y a une partie du corps qui a un problème, donc ça veut dire que c'est une maladie. Par exemple, lorsqu'une personne a mal à la tête, ça veut dire qu'il a mal à la tête, mais il a pas mal au pied, il a pas mal à la main, ça veut dire clairement que c'est une maladie. Très bien. Mais dit la Gemara, Oulam, im imit paché tête al-color, mais si la même plaie va se répandre sur toute la peau, adavar mochriar chez Zéou tivou agoufani, de là ça va nous prouver que c'est pas maladif, mais c'est la nature de la personne, c'est la nature de son corps. Il y a des corps qui peuvent avoir différentes réactions par rapport à différents phénomènes. The end is negaklal, et dans ce cas-là, c'est pas du tout une plaie. D'accord? Ça peut être une réaction, comme aujourd'hui on a l'eczéma par exemple. C'est une réaction par rapport à un certain phénomène. Donc la Gemara explique, elle dit que comment ça se fait que si ça s'est répandu sur tout le corps, on est persuadé que c'est pas une plaie? Parce qu'une plaie, par définition, ça peut pas atteindre tout le corps. Une plaie, ça doit atteindre une partie du corps. Normalement, en général, dans les statistiques, une plaie n'atteint pas tout le corps. Si la plaie a atteint tout le corps, enfin une plaie cutanée, c'est-à-dire par voie cutanée sur la peau, ça veut dire que c'est évident que c'est lié à la nature de la personne et c'est pas une plaie. Et la Gemara explique, Agmara, je vous parlais comment c'est Agmara. Agmara me via alakha zo bekesher le geoula. L'Agmara amène cette même alakha qu'on vient de dire. Que si, qu'on vient de dire, on vient de dire que si la plaie est locale, d'accord, ça veut dire que c'est réellement une plaie. Mais si la plaie s'est répandue dans tout le corps, dans ce cas-là, c'est une preuve que ce n'est pas une plaie, mais c'est la nature. Et l'Agmara amène ça à propos de la geoula. Écoutez bien. Elle dit que nega romez la avonot ve la chataim. Une plaie en général, spirituellement, je représente quoi? Je représente les avérotes, les fautes. Et alors? On peut avoir des fautes locales. C'est-à-dire, on peut avoir une situation comme ce qu'on a eu jusqu'à présent, dans laquelle la majorité de l'humanité est cachère, entre guillemets, ne faute pas spécialement, et on a certaines civilisations qui fautent. Ça, c'est une plaie locale. Et là, ça prouve que c'est une plaie. Et une plaie, il faut s'en débarrasser, c'est impur, etc. D'accord? C'est une plaie. Mais qu'est-ce qu'on a expliqué? On a dit que si la plaie s'est répandue dans tout le corps, c'est une preuve que c'est plus une plaie, mais que c'est un phénomène naturel. Alors écoutez bien ce qu'a dit la Gemara. Omer at Agmara, la Gemara a dit dans le traité Sanhedrin, page 97. Elle dit, En ben David ba, ad shetit aper kol amalchut le minut. Que Mashiach ne viendra pas tant que toute la royauté ne s'est pas, la royauté, c'est-à-dire le pouvoir, ne s'est pas transformée en hérésie. D'accord ? Ne s'est pas transformée en hérésie, ça veut dire, les minutes, ça veut dire qu'ils font des choses qui sont incompréhensibles et qui n'ont rien à voir avec la royauté. Alors pourquoi, avant le cours, j'ai dit que j'allais parler d'Obama, parce que Pratit. Parce que hier ou avant-hier, Obama, il marche mot, il a dit que le conflit israélo-palestinien coûte aux États-Unis, comme ça il a dit, hein, il a dit que ça coûte aux États-Unis en argent et en vie humaine. Ça veut dire qu'il a fait comprendre qu'il y a des soldats américains qui perdent leur vie à cause du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, dans les plus grands journaux américains, comme le Washington Post et le New York Times, etc., il y a le président de l'équivalent du CRIF, d'accord, donc c'est le regroupement des communautés aux États-Unis, d'accord. Non, c'est pas l'IPAC, c'est un autre. Il y en a plusieurs aux États-Unis, hein, plusieurs regroupements. Qui va faire une pub d'une page entière dans les journaux principaux aux États-Unis, dans lesquels il va attaquer Obama. Et dans lesquels il va dire que c'est incompréhensible ce qu'il fait, comment d'un côté il s'approche des musulmans, etc. Et pourquoi, quand j'ai préparé ce cours, j'ai pensé à ça. Que vraiment, on ne comprend pas ce qui se passe. Et quand je dis on ne comprend pas ce qui se passe, c'est que si c'était uniquement local, ça veut dire que dans certains endroits, qu'est-ce qu'on vient de dire? Dans ce cas-là, ça aurait été une preuve que c'est une plaie. Mais quand on voit que la plaie se répand, et qu'au contraire, celui qui est le plus fou, c'est celui qui prend le plus de pouvoir, a priori, on voit que ce que la Gemara est en train de dire est en train de s'accomplir. La Gemara a dit que Mashiach ne viendra pas tant que la royauté ne s'est pas transformée en hérésie. On va expliquer dans les mots. Kelomar, ça veut dire Kaasher Malchut Akfirat Yemuchletet. Lorsqu'on n'arrive plus à retrouver des gens kasher, et que même des gens, même des présidents qu'on dit kasher, comme comment il s'appelle celui qui est mort de Pologne là, Lech. Hein, comment il s'appelle? Il a un nom compliqué. Wyszynski ou je sais pas quoi. Alors j'ai lu cette semaine un témoignage d'un rave que je connais très bien, le rave Matuzov qui est à Bruxelles, qu'il connaissait très bien, et qui a témoigné que c'était vraiment quelqu'un de très bien. Il était un des seuls présidents qui est toujours proche d'Israël, etc. Et quand on voit comment des gens comme ça meurent, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Et c'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit que Mashiach ne viendra pas tant que toute la royauté ne s'est pas transformée en hérésie. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Que si la plaie s'est répandue dans tout le corps, ça nous prouve que ce n'est pas une plaie, mais ça nous prouve que ça fait partie d'un phénomène naturel, ce qu'on a expliqué dans la Tzaraat. Ça veut dire quoi? Kelomar, Kaasher Malchut Akfirat Yemuchletet Zesiman Ligula Krova. Lorsque la royauté donc, est en train de tout renier, on ne comprend plus rien, lorsque ce phénomène va se répandre dans toute la planète, Zesiman Ligula Krova, ça c'est un signe que la Goula va s'approcher, comme on va expliquer. Vaochacha Alkar, et la preuve en est, Kulo afach lavan taorou, que si la plaie s'est répandue dans tout le corps, dans ce cas-là, la personne est pure. Ça, c'est ce que la Gemara dit dans la Gemara Sanhedrin, page 97. Il y a toutes deux pages de Gemara là-bas qui sont dédiées à des phénomènes qui vont arriver quand Mashiach viendra. Et ça, c'est un des phénomènes. Alors, Veshuv Nishelet Tachela. On ne peut pas s'empêcher de poser la question. Ech itachen shebe matzav ruchni yarud kolkar yeftiaor regeula. C'est une question que le rabbi a répété plusieurs fois, parce que c'est une question que les gens posent souvent et qu'on se pose souvent. On se dit, comment c'est possible que notre monde, qui est dans une telle situation, une situation tellement basse, que le pouvoir aujourd'hui ne représente plus rien? Quand le pouvoir aujourd'hui, bah c'est une question d'argent, etc. Mais c'est plus comme avant, que le pouvoir représentait une certaine cache-route, une certaine droiture. Donc la question que tout le monde se pose, c'est comment c'est possible que que notre monde qui est dans une situation, dans un état tellement bas spirituellement, comment c'est possible que c'est là que Mashiach va venir? Comment aujourd'hui tu peux nous dire que Mashiach arrive? C'est le moment le moins propice à priori pour que Mashiach vienne. C'est impossible, c'est pas normal. Il y a des moments où on était beaucoup plus méritants pour recevoir Mashiach. Maintenant, de quoi on a l'air? Comment on va recevoir Mashiach? On a l'air de rien pour recevoir Mashiach. Ech itachen, shedavka kasher ara gover ou mishtalet al kol. Comment c'est possible de dire que particulièrement quand le mal est là et très fort, et on voit comment progressivement le mal est en train de prendre le pouvoir, on le voit clairement, comment plus on est mauvais, et plus on prend le pouvoir. Comment c'est possible que Davka az ou Azman Araoui de Geoula? Comment c'est possible que les Rachamim nous disent aujourd'hui que c'est maintenant que c'est un moment propice pour la Geoula? Comment c'est possible? Alkar, yesh la tête acheté à Chouatanal. Et sur ça, on va répondre les mêmes deux réponses qu'on a dit avant. Parce que c'est la même question si on réfléchit. C'est quoi la question qu'on a posée au début du cours? On a dit comment c'est possible qu'une plaie qui vient sur une partie du corps rend impur tout le corps. Mais une plaie qui vient sur tout le corps rend le corps pur. C'est la même question qu'on doit se poser. Comment c'est possible que tu me dis que quand tout le monde entier sera pervers, c'est là que ma chair va venir? C'est pas logique.
Oui, c'est pas logique.
D'accord. Justement.
En 40.
Bonne question. C'est vrai. C'est pour ça que les Rachamim de l'époque ont tous dit que c'était un zman, c'est un moment propice pour Mashiach. Peut-être qu'on n'était pas encore assez pervers.
Il faut qu'on arrive à pervers que 40.
Non, voilà. Il faut, non, justement, attention. La Gemara là-bas, elle dit, il faut que... Voilà, c'était pas généralisé. Elle dit que là, tu dis t'affaires, colle à Malchut les minutes, il faut que toute la Terre...
C'est plus généralisé d'accord. que maintenant, quand même. Bon. C'est une guerre mondiale. En tout cas, c'était plus que maintenant.
Il y a aussi un autre Mefaresh.
L'Europe, c'est généralisé en Europe, mais bon.
Il y a aussi une autre, j'ai vu aussi d'autres
Mefarshim. C'est le monde entier qui était
en Russie, c'est quoi? Non, c'est mais ça. Je pense que c'est dans l'esprit par rapport au peuple juif.
Bah, les États-Unis, ils ont fermé.
Il y a aussi un autre, d'autres commentaires, d'autres Mefarshim qui disent, que j'ai vu beaucoup aussi, qui disent que le processus de Mashiach a déjà démarré depuis la Première Guerre mondiale.
La première ou la deuxième?
Première, je ne parle pas de la deuxième. D'accord. Voilà. Non, mais c'est-à-dire que le processus a déjà démarré. Non,
mais il a démarré d'accord depuis la libération d'Égypte.
Non. Processus de la Geoula, j'ai lu des Mefarshim clairs, hein, qui disent que le processus de la Geoula a démarré déjà depuis la Première Guerre mondiale.
Ouais, donc ça peut d'accord encore
il a démarré depuis le début. La Geoula a démarré depuis la
création. Je pense pas que ça veut durer 600 ans parce que le Rabbi nous a dit que la Mashiach est très proche. Quoi? Pour moi, ce que le Rabbi dit, c'est sans équivoque.
Excusez-moi.
C'est proche? Non. C'est proche. Non. Non, proche. Le Rabbi a dit que la seule chose qui nous manque aujourd'hui, d'accord, le Rabbi a dit dans les dernières années, il a dit que la seule chose qui manque aujourd'hui, c'est le fait qu'on doit se préparer à la venue du Mashiach. C'est pour ça qu'il a lancé, bon, même en français, il disait « Préparez-vous, Mashiach » et la police, il disait « Préparez-vous, Mashiach arrive ». Pourquoi? Parce que le Rabbi disait qu'un des grands obstacles qui empêche Mashiach d'arriver maintenant, c'est le fait qu'on n'est pas prêt. C'est le fait que les Juifs ne sont pas prêts. Donc il faut faire le maximum pour être prêt. Mais en tout cas, ce phénomène-là, de dire que... Il y a plusieurs phénomènes que la Gemara donne là-bas. La Gemara dit que pour que Mashiach vienne, il faut que toute la royauté se transforme en hérésie. La Gemara là-bas dit aussi « Pour que Mashiach vienne, il faut que les enfants se révoltent contre leurs parents ».
Bah
c'est d'actualité ou pas? Ouais. D'accord. La Gemara l'a belle dit, il faut que la belle-fille se révolte contre sa belle-mère.
Ah ça.
Moi je comprends pas que ce soit pas dit ça.
Page 97.
Ouais. À chaque époque on peut dire.
Non. Parce que là justement, la Gemara l'a belle dit, il faut que ce soit encore une. Non, c'est ça le principe qui veut dire le Rabbi. C'est que tant que c'est pas généralisé, on considère que c'est une plaie. Tant que c'est pas généralisé, on considère que c'est une plaie. Mais si ça se généralise, là, ça veut dire que c'est un phénomène naturel. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais on va développer dans les mots.
Mais pourquoi tu as dit la Première Guerre mondiale? Pourquoi ce point?
C'est pas moi qui l'ai dit.
Il n'y a pas d'explication.
On va voir, justement, les deux réponses. Pourquoi? Comment ça se fait que...
C'est une guerre mondiale, c'est généralisé.
Oui.
C'est mondial.
Oui, mais bon, effectivement, dans les faits, c'est pas mondial.
C'est surtout le conflit de deux blocs.
Ouais.
Ça, on n'a jamais vu avant.
Gog et Magog, qu'on voit dans le Midrash, deux blocs.
Deux géants qui se...
On est en plein dedans, enfin bon.
La Perse et l'Empire
romain,
il y avait deux blocs.
C'était pas le Zman encore?
D'accord, donc c'est une question de Zman, en fait.
Oui,
on dit on approche, mais ça peut durer quelques siècles encore.
Non, attention, parce que dans la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre entre deux pays, entre deux puissances, et il faut que Israël soit au milieu. C'est ça, dans le Midrash, c'est écrit clairement. C'est écrit qu'Israël est au milieu, ils disent on ne sait pas quoi faire, il y en a d'un côté, un dans l'autre, on ne sait pas si... Et Dieu dit, vous inquiétez pas, on va vous sauver. Et ça, le Rabbi a dit explicitement que en tout cas, une des interventions de Gog ou Magog, c'était la guerre en 91. C'est clair. C'est évident, ça sautait aux yeux. Ça, c'est une guerre dans laquelle on peut dire que toute l'humanité était mélangée à cette guerre. Donc on est dedans, c'est sûr qu'on est dedans. Alors, on avait souvenir. Donc, Alker, Yesh la tête, et Shtet, Shuvot Anal. Donc on va développer les deux réponses. C'est quoi les deux réponses qu'on a dit tout à l'heure? On a dit comment ça se fait, la question qu'on a posée, on a dit comment ça se fait que lorsque la plaie s'est répandue dans tout le corps, tu me dis que c'est pur. Tu me dis pourquoi? Comment c'est pas logique? Si une petite plaie rend impur tout le corps, c'est sûr qu'une grande plaie doit rendre impur tout le corps. Donc on va donner les mêmes deux réponses qu'on a données tout à l'heure. C'est quoi la première réponse qu'on a dit? Esper echad, she'achen en l'rapes bekar gayon, et la zogzeratakatu. On aura une première explication qui va nous dire qu'effectivement, il ne faut pas chercher de la logique, il n'y a pas de logique. C'est quoi la première réponse qu'on a dit tout à l'heure? On a dit qu'il n'y a pas de logique, c'est une xerat akatouf. Car rotsi akadash baruchu, c'est comme ça que Dieu veut. Shageoula tavo blishum kesher la matzav haolam. C'est-à-dire, si un jour vous parlez à quelqu'un, vous lui dites, tu sais, ma chère va arriver. Tu dis, mais comment c'est possible que notre monde est tellement perverti, comment ma chère peut venir dans un monde comme ça? Tu peux lui donner deux réponses. Première réponse, tu peux lui donner, tu peux lui dire, écoute, c'est une xerat akatouf, c'est une xerat de la Torah. C'est Dieu qui a décidé comme ça, qu'avant que ma chère vienne, le monde sera le plus pervers possible. C'est comme ça que Dieu a décidé. D'accord? C'est comme ça que Dieu décide. Ça, c'est une première réponse que tu peux lui donner. Mais une deuxième réponse qu'on peut lui expliquer, Davka, donc, non, là, je suis encore dans la première réponse. Davka ka asher haolam sharu bimatsa vashafel varachok beyotam mageoula, yavi ota kadosh baruchu bekocho en sofi kemo shenemar lemarani et esse. Une des prophéties à propos de Mashiach, c'est la prophétie de Isaïe. Et là-bas, hein, Isaïe dit que Kadosh Baruch Hu dit à propos de Mashiach, il dit que les Marani et Essé, ça veut dire que la venue du Mashiach, je la ferai pour moi. Il répète deux fois, je la ferai pour moi. Là-bas, les commentaires, ils posent la question, ils disent, mais pourquoi Dieu dit qu'il fait la Goula pour lui? C'est pas pour lui, c'est pour nous qu'il l'a fait. Et en plus, c'est pas une fois qu'il dit le mot les Marani, mais il répète deux fois. Presque il a envie de souligner, de dire, c'est pour moi. Alors après, ce qu'on a expliqué, on comprend. Que quand Mashiach va venir, sera un moment dans lequel le peuple juif ne sera pas forcément... Enfin, je ne sais pas qu'il n'est pas méritant, on est méritant avec ce qui a été accumulé par le passé. Mais ce sera un moment dans lequel l'humanité ne sera pas dans son meilleur état. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu dit que finalement, la Géoula, je la ferai pour moi. Ça veut dire en mon mérite, parce que je l'ai promis. Et ce n'est pas forcément lié au comportement des gens. Que c'est possible qu'il y ait eu des étapes, il y a eu des périodes dans lesquelles les gens étaient beaucoup plus méritants. Vous prenez par exemple l'époque du roi Salomon. L'époque du roi Salomon, c'est une époque dans laquelle l'humanité était beaucoup plus méritante qu'aujourd'hui, c'est évident. D'accord, même dans les traces des livres d'histoire aujourd'hui, même chez les goïms, on n'a pas de traces de guerre qui s'est passée à cette époque-là. Il n'y a pas de traces, cherchez, il n'y a pas de traces. Il n'y a pas eu de guerre, enfin de grosse guerre en tout cas qui s'est passée à cette époque-là. C'était calme.
Quand?
À l'époque du roi Salomon. Du roi Shlomo. C'est écrit que là-bas, le Zohar, il dit que cette époque-là, c'est ce qu'on appelle Kaima Siara Bashlemuta, c'est-à-dire qu'on était à la pleine lune.
Pas de conversion.
D'accord. Il n'y avait pas
de conversion possible.
De
conversion.
C'est une reconversion.
Les gens ne peuvent pas devenir juifs.
Oui, d'accord. Non, mais je ne parle pas de conversion. Je parle de l'état du monde.
C'est un état comme quand il y a la chair.
Très bien. Je parle de l'état du monde. C'est-à-dire que l'état du monde à cette époque-là, là-bas, le Zohar, il dit que c'était une époque dans laquelle Kaima Siara Bashlemuta, c'est-à-dire que la lune était pleine. Même le peuple juif. Parfait. C'est top. À l'époque du roi Salomon, c'était top. D'accord. Avant le roi Salomon, on a eu des problèmes. Jusqu'à que le roi Salomon vienne, le roi David, ses enfants, il y a eu la guerre, etc. Mais après, on lisait l'histoire. L'époque du roi Salomon, c'était une époque extraordinaire. C'est le meilleur exemple d'un roi qu'on peut avoir. D'accord ? Chizkiyahou, oui, c'est encore une autre période. Mais Chizkiyahou, son règne ne s'est pas répandu parmi les nations. Alors que le roi Salomon, son règne s'est répandu parmi les nations. Il a imposé un certain calme dans l'humanité. Et pourtant, ma chère n'est pas venue. Donc, première réponse qu'on donne, si on se pose la question, on se dit, mais comment dans une période comme ça, ma chère peut venir ? C'est que c'est Xerat Akatou, c'est un décret. C'est Dieu qui a décidé que ma chère viendra dans une période dans laquelle l'humanité sera à son plus bas. Là, c'est une première réponse.
Non, c'est que la lumière, elle peut sortir que de l'obscurité.
Oui.
Il y a ce phénomène-là.
Oui. Maintenant, deuxième réponse, justement.
Si c'est trop noir, on
deuxième réponse. De... Oui, mais la question, c'est que si des générations qui étaient plus méritantes que nous ne l'ont pas reçu, comment nous on va le recevoir ?
C'est ça la question. Au bout.
Alors, il y a aussi un commentaire qu'on avait fait pendant Pessah. On avait expliqué, la Morazakaï expliquait ça avec la technique de l'effet levier. Comment ça marche l'effet levier ? C'est quoi la théorie de l'effet levier ? C'est quoi l'effet levier ? J'ai quelque chose.
L'effet levier.
Oui, mais attention. Non.
C'est un petit effort, il y a un gros.
Mais l'effet levier, d'accord ? Imaginez-vous que j'ai envie de porter quelque chose de très lourd, d'accord ? Je vais essayer de le lever d'en haut. Est-ce que je peux le lever d'en haut ? Par l'effet levier. C'est quoi l'effet levier ? Est-ce que je peux le lever d'en haut ? Non. On voit ce qui est réfléchi dans les... Non, mais attention. C'est quoi l'effet levier? Non, parce que c'est peut-être un truc, et tes patrons, ils en parlent souvent, l'effet levier.
Merci.
Tu viens d'arriver. Alors, regarde. C'est quoi l'effet levier? L'effet levier, c'est que si tu veux lever une, si tu veux lever une masse très lourde, d'accord, si tu veux la lever d'en haut, tu peux pas.
Non, il faut baisser.
Il faut la lever d'en bas, le plus bas possible. Ça, c'est la première règle de l'effet levier. Deuxième règle de l'effet levier aussi, c'est que plus tu t'éloignes, et plus tu es de puissance, on est d'accord? C'est la deuxième règle de l'effet levier. Et la Dmorazaken, il a expliqué ça, on l'avait étudié pendant Pessah. Il appelait ça l'effet, comment il appelait ça? Kelly chez Korim, l'hiver, ils appelaient ça. L'hiver, le levier, d'accord? Il a dit que c'est la même manière, quand les gens posent la question, ils disent comment ça se fait que, comment on peut expliquer que c'est nous qui allons amener Mashiach, alors que les autres ne l'ont pas amené? C'est que nous, en vérité, on fait l'effet levier. Même si on est en bas, et on est en bas. Personne ne te dira qu'on n'est pas en bas, il y a les autres qui étaient en haut. Mais ceux qui étaient en haut ne pouvaient pas lever ceux qui étaient en bas. Alors que nous, comme on est en bas, plus on est éloigné, et plus on a de puissance pour faire l'effet levier. Mais bon, on va développer la deuxième réponse.
Oula,
ouais. Oula. Ah oui, c'est très fort, ça. C'est un principe dans physique.
Donc, j'ai pas compris, plus on est en bas, il faut être en bas pour lever.
Pour, bien sûr. Il faut être en bas, c'est obligé. L'effet levier, il faut être en bas.
Tu vois?
Non.
Il parle pas d'en bas, excuse-moi. C'est de tirer vers le bas. C'est pas d'être en bas pour la lever, c'est de tirer vers le bas. Quand tu veux lever quelque chose,
oui, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'effet levier, deux secondes, ton point de soutien, voilà, l'appui.
On parle de la poulie, là.
L'appui.
Mais on parle de la poulie.
Non, je parle pas de la poulie, je parle du levier.
On est en haut et la masse est en bas.
Exactement. Et donc tu as. Très bien. Donc ça veut dire. Oui.
Théorème des moments.
Mais la question, voilà, théorème des moments, oui. Mais le point de soutien, à quel endroit tu poses le.
Non.
Non, en bas.
Le point de soutien de quoi?
Le point
de où? La masse que je veux défendre.
Non, pas la masse. Dans la masse. En bas. Voilà. Donc c'est le bas qui porte le haut.
Donc c'est le bas. D'accord.
Mais il faut être très loin.
L'objectif, c'est que la pierre lève.
Voilà, mais par où elle lève? Pas par en haut. Normalement, quand tu portes un sac, par où tu portes? Par en haut.
Tu vois bien qu'on passe toujours par en dessous. On ne prend pas comme ça, on ne prend pas comme une grue.
Non, mais pourquoi on amène l'effet levier? Dans l'effet levier...
C'est pour d'autres raisons.
Oui, dans l'effet levier, on a un autre... Dans l'effet levier, on a un autre...
Ça existe aussi. Hein.
Dans l'effet levier, ce qu'on voit...
Parce que le poids est en haut, si tu prends en haut...
Voilà, non, mais c'est que l'effort n'est pas très fort dans l'effet levier. Et les gens se demandent, ils disent, comment moi, avec une mitzvah, j'ai amené ma chère?
L'effet de poulie, c'est que plus tu tires vers le bas,
toi, tu parles de l'effet de poulie.
Non, c'est pas moi, je parle de l'effet levier.
Tu divises la masse par deux, les contenants.
Tu divises la masse par deux. Oui, et pour la lever, tu tires vers le bas.
Si ce que tu veux lever, c'est un kilo.
Je parle pas de ça. Allez, monsieur, venez, on finit.
La force, l'effet levier. 500 grammes.
C'est la force que tu mets.
Pas le nain, je parle
de la levée. Monsieur, venez, on finit. Allez, on y va. Oulam.
Ça devient de la construction, là.
C'est bien. Allez, on y va après. Oulam, Efchar Lirot, Gam et Tetsad Achiyuvi, Shebematsavze. Mais là, ce que le rabbi dit, c'est qu'en vérité, quand on voit l'humanité comme ça, qui est en train de se détériorer entièrement, et c'est un fait qu'on ne peut pas nier, alors, au lieu d'attribuer ça à Xerat Akato, de dire, bon, c'est une Xerat de Dieu et c'est tout, point la ligne, on peut retrouver un côté positif dans ça. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à la lèpre? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? La Gemara a dit que si la lèpre est seulement locale, ça veut dire que là, effectivement, c'est une maladie. Mais si la lèpre s'est répandue dans tout le corps, ça veut dire que c'est pas une maladie, mais que c'est un phénomène naturel, lié par exemple, comme l'eczéma, c'est un phénomène naturel, qui est lié à plusieurs phénomènes qui sont assemblés ensemble, d'accord? Donc, Oulam, Efchar Lirot et Tetzad Achiyuvi Shebematsavze, on peut voir le côté positif qu'il y a dans la fin des temps, qu'on y est aujourd'hui, on est en plein dedans. Kaasher Ara Mitpachet Alkol Aolam, lorsque le mal se répand dans toute l'humanité, Zohara Sh'en Medouba Bistem Mitgabrut Shalara. C'est une preuve qu'il ne s'agit pas ici d'une simple maladie qui pourrait se répandre dans le monde. Pourquoi? Parce qu'une maladie, par définition, ne peut pas se répandre dans tout le corps. Chez Ilua Yakar, Ayut Srichim Leishaer Halakim Shebaem Shweletatov. Parce que dans ce cas-là, on aurait été obligé d'arriver à la conclusion qu'il y a au moins quelques parties du monde qui restent cachères, qui restent bonnes. Et plus on avance, et plus on voit que ce n'est pas le cas. D'accord? Par exemple, voilà, en Israël, il vient d'avoir un scandale, le scandale qu'ils appellent Holy Land. Il y a eu le scandale la semaine dernière. Un scandale énorme. Dans lequel les juges ont dit que tout le pouvoir est lié à ce scandale. D'accord, c'était un projet immobilier dans lequel il y avait des choses qui n'étaient pas aux normes, mais pour le faire, il y a eu des pots de vin qui ont été versés. Bakshish un peu partout. Mais des bakshish qui sont partis très très loin. Très très loin. Tout le monde, droite, gauche, religieux, pas religieux, c'est énorme ce qui s'est passé.
Pas religieux aussi.
Malheureusement, oui. Il y a le...
Ah oui, il se dit c'est pour monter des yeshivot, c'est pour...
Je sais pas. Je veux pas dire son nom, mais il y a un ancien maire de Jérusalem, religieux, qui est actuellement en prison. qui est actuellement en prison. Enfin, c'est pas une prison. C'est pas, il n'est pas en prison. C'est pas la prison, c'est... Comment on appelle ça? Voilà. Il a été surveillé, ça fait déjà 10 jours. D'accord. Et on a demandé de prolonger parce que, bon, il y a des choses qui se passent, on ne sait pas ce qui se passe. Alors, chez Ilou, et c'est ça la question qu'on se pose, on se dit, mais comment c'est possible que dans une situation comme ça, Machiach revenir? C'est impossible. C'est ça la réponse. C'est que puisqu'on voit que ça se répand tellement, ça veut dire de là, on voit qu'en vérité, c'est pas seulement une plaie, c'est un phénomène naturel, c'est un phénomène de préparation à la Géoula. Ishtaltut mukhletet shel hara meida shekol hakochot hashlilim yotzim achutza mishum shebifnim kvar ein lahem makom. Ça, c'est extraordinaire comment le rabbi explique ça. Le rabbi dit que si on voit que le mal est en train de sortir, ça veut dire qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que si le mal est en train de sortir, ça veut dire qu'il n'a plus de place à l'intérieur. Et puisqu'il n'a plus de place à l'intérieur, il est en train de s'exprimer, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'a plus sa place, donc il est en train de s'exprimer, de tout se lâcher. Et ça, c'est une preuve que Mashiach est proche, même si on ne le voit pas.
Mais c'est quoi l'intérieur?
D'accord.
Du corps.
L'intérieur, c'est l'intérieur du corps.
Oui, mais dans
l'intérieur, dans le monde... L'intérieur, ça veut dire que c'est Mashiach qui arrive. C'est l'intérieur qui est bon, qui a envie de devenir bon. Et donc, il est en train de rejeter tout le mal qu'il a à l'intérieur. D'accord.
Et même... Il faut aller braquer des banques, quoi.
Pour accélérer le processus mécanique.
Matsavze. Attention, je veux qu'on comprenne bien. On parle ici. On parle.
C'est Léo qui va se défendre. Il va dire non.
Quelle heure il est? Je finis avec ça. On parle ici surtout.
À me frapper.
Attention. On parle ici surtout du pouvoir. Et ça c'est intéressant. Pourquoi? Parce que dernièrement, ce qu'on voit. C'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens, dans beaucoup de civilisations, le peuple est ok, le peuple est bon, d'accord. Et c'est les gens qui sont au pouvoir, c'est les dirigeants qui sont complètement tordus. Et ça, on le voit de plus en plus, pas qu'en Afrique. Hein?
Non,
d'accord.
C'est déjà tout pourri.
Le peuple est bon ou pas bon chez vous?
Hein?
Le peuple est pas bon?
Non, le peuple, le petit peuple est bon.
Donc voilà,
c'est que pour l'Afrique, ça fait voilà. Que c'est venu le
voilà, donc on y est. C'est ce que la Gemara dit. La Gemara dit qu'avant que Mashiach revienne, c'est la malchoute, c'est la royauté, c'est-à-dire c'est le pouvoir qui va se transformer en hérésie.
Qui est pourri.
Et on le voit à 100%. Regardez, il y a Olmert. Vous vous rappelez Olmert? Olmert, c'était quelqu'un qui a l'air bien.
Ouais.
D'accord, c'est un président d'Israël, etc.
Alors
il est rentré hier, il a fait un tour en Europe, il est rentré hier.
Oui.
Il va être enquêté pendant plusieurs jours sur l'histoire de l'Iran.
Et sur l'histoire de sa maison aussi.
Sur sa maison, c'est ça. Ouais, on se pose des questions.
Non,
attends,
il était
à notre pouvoir pendant 4 ans. 4 ans, il était à notre tête.
Ouais, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a de plus en plus de mouvements qui viennent du bas,
oui.
Pour le mieux vivre. Par exemple, le commerce équitable.
Oui.
Ça, c'est pas les États qui les ont
organisés. Bien sûr.
Ça vient d'associations.
Exactement.
Même les vient de la base.
Basiques.
Oui. Et c'est eux qui font changer et qui font.
Et donc, ça veut dire que le malchut, la royauté, ça veut dire le pouvoir. On voit clairement comment elle est en train de pourrir. D'accord.
Il va limiter.
Alors, Matsavze, je finis avec le dernier paragraphe. Bon, c'est un peu. On peut allonger aujourd'hui, on a perdu la moitié au cours d'eau. Oula, Mefchar Gamlirot, et Tetsa Dachiyubi.
Le Mashiach ne fait plus rêver. Après la Shoah, c'est...
Oula, au contraire, c'est ce qu'on est en train d'expliquer. Oula, donc Matsavze ou Chelek Maazirou Chassofi Shelaolam. Cette situation fait partie, d'accord, du nettoyage final du monde avant que Mashiach revenir. Une autre prophétie, d'accord. Une autre prophétie que la prophétie de Daniel qui dit que Itbarou, Veitlavnu, Veitsafu Rabim. Même si c'est une réalité qu'on n'a pas envie d'entendre et qu'il y en a qui sont partis pour ça. Mais c'est une réalité que Daniel dit qu'avant que Mashiach va venir, d'accord, on va voir comment le mal va progressivement sortir et qu'on va se rendre compte, progressivement comment ceux qui sont à notre tête sont pourris.
Daniel.
Il dit Itbarou, Veitstarfu, Veitlabnu, Itbarou, Veitlabnu, Veitstarfu Rabim. Que les gens qui sont très forts, ils vont être nettoyés, d'accord. Et ils vont être Veitstarfu. C'est quoi Itstarfu? Itstarfu, vous savez, c'est quand on prend l'or. D'accord. L'or, à la base, quand on le prend, il est sale. On a besoin de le nettoyer. Le nettoyer très. Et c'est là que l'or va ressortir, et qu'on a beaucoup de saletés qui vont sortir. Et Daniel, d'accord, le prophète Daniel, dit que c'est ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Il y aura une sorte de mal qui va devoir sortir. On va devoir séparer le mal du bien. Kaasher ara nifrad me'atov veyotze achutza. Quand le mal se sépare du bien et sort à l'extérieur.
Aola.
Très bien, ben le bien qui va jaillir, c'est Mashiach. Si, moi je vois le bien jaillir au niveau du peuple. C'est pour ça que j'ai parlé du peuple.
Le peuple d'Israël.
Non, le peuple en général. Le peuple en général. Les gens qui sont en bas, on voit qu'eux, ils ne sont pas forcément pourris. Au contraire, ils sont à la recherche de vraies valeurs. Ça, on le voit partout. Partout, on le voit.
C'est vrai.
Oui,
c'est
le vrai. Peuple, on le voit, c'est vrai.
C'est vrai.
Les quoi? Non, je parle pas de ça. Je parle pas par rapport à la Torah. Attention. Je parle pas de la Torah. On parle pas du tout de la Torah.
Il n'y a plus de repères.
Bien sûr. Oui, je parle des valeurs.
Des valeurs. Il n'y a plus de repères, les gens n'ont plus de repères.
D'accord.
Ça reste quand même des goïms qui ne suivent pas les Afrique.
Oui, très bien. Alors encore une fois, c'est ce qu'il te dit. Il te dit ici.
Oui, je vois pas. Je vois pas comme quoi. C'est pas grave. Chacun fait sa vision. Moi, je vois pas comme quoi le peuple recherche des valeurs.
Mais ma chère, ce n'est pas là encore. Il y a un mouvement.
Moi, je vois avec les gosses aujourd'hui dans quoi ils sont français, dans quoi ils sont noyés dans la drogue. Ils sont sur Internet, ils sont dedans.
Oui.
Moi, je vois plutôt.
Ce qu'il a dit. Oui, mais c'est à cause de quoi ça? À cause de quoi? C'est à cause du pouvoir, ça. Pourquoi?
J'en ai parlé à la semaine dernière, parce que moi j'étais dans les yeshivas, il y a beaucoup de convertis, justement.
Oui.
Et quand tu arrives à ce stade-là et que tu te dis, attends, pourquoi je vais prendre sur moi tout ça, alors que je vais passer à côté de ce qui est plus intéressant. C'est, quand tu es conscient du émet, pourquoi tu vas passer à côté?
C'est une autre question. Bon.
Attends, les sociétés actuelles appliquent les lois noachides ou pas?
Pas forcément.
Non, comment pas forcément?
Pas forcément.
Non.
Quelle est la loi qu'ils ne font pas?
Les démocraties.
Quelle est la loi qu'ils ne font pas?
Croire en Dieu déjà.
Croire en Dieu. La première.
C'est la première.
Tous ceux qui sont athées déjà, tu les enlèves. Mais il y en a de plus en plus.
Pas aux États-Unis, ok.
L'amour de son prochain. Il te tue un mec dans le centre de Grenoble. À 15 personnes, ils le mettent dans le coma. Il y a quelques jours, les mecs sont attablés dans la story, il n'y en a pas un qui se lève.
Mais justement, ça c'est le mal qui se sépare du bien. On est tous choqués par ça.
Tous ceux qui mangent des animaux.
Mais encore une fois, moi je trouve que c'est encourageant.
Ils les mangent, ils les gobent, les huit, elles sont encore vivantes quand ils mangent.
Là, en tout cas, nous ce qu'on parle, on parle du pouvoir.
Tu enlèves, il reste beaucoup.
Honnêtement, le rabbi ne s'est pas arrêté trop sur le peuple ici. Parce que c'est pas de ça que la Gemara a parlé. La Gemara n'a pas parlé du peuple. La Gemara dit qu'un des signes de Mashiach, c'est qu'il faut que le pouvoir. D'accord ? Se transforme en hérésie. Ça veut dire qu'il faut qu'il devienne pourri. On n'a pas parlé du peuple. Si le peuple avance ou n'avance pas, c'est une autre question, ça.
En Iran, c'est déjà fait.
C'est pas la question. D'accord ? Même si le peuple avance dans certains endroits, certains huit, certains non, certains descendent, certains montent, c'est une autre question, ça. Là, la Gemara a dit, la Gemara n'a pas parlé du peuple. La Gemara a parlé, dans ce signe-là, elle a dit qu'il faut que toute la royauté se transforme en hérésie.
Est-ce que ça veut dire que c'est une guerre mondiale totale ?
Non ? On va parler de guerre ?
Non.
On a parlé d'hérésie, on a parlé de quelque chose qui est pourri de l'intérieur.
Je vais donner un bon exemple avec Israël. Je pense que les premiers gouvernants, ils étaient bons, et aujourd'hui on voit de plus en plus que les gouvernants...